Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Donner la parole, valoriser la parole de chacun, partager des réflexions, des connaissances, des expérimentations artistiques, tendre l'oreille vers ce qui se crée, s'imagine, s'invente, c'est tout l'objet de cette émission. Cette émission d'aujourd'hui vous propose d'aller à la rencontre d'une structure artistique qui fête depuis le 19 novembre dernier et ce jusqu'au 22 décembre prochain ses 25 ans d'existence, de création, d'expérimentation, d'innovation dans les champs de la création contemporaine et de l'expérimentation artistique. Résonance s'associe donc aux 25 ans du collectif Ishtar. Depuis 1993, le collectif Ishtar inscrit ses travaux dans le paysage culturel du territoire de l'Ain et bien au-delà par la production et l'organisation de multiples événements artistiques. Pour cela, il rassemble des musiciens, danseurs, plasticiens, poètes et autres artistes d'aujourd'hui pour développer ses projets et donner vie à cette aventure. Une pratique vivante, et en mutation, au fil des années, le collectif Ishtar n'a eu de cesse d'évoluer, menant des médiations et des événements artistiques hors normes. C'est un collectif précurseur qui se remet en question et porte à travers ses actions un regard iconoclaste sur le monde. Le collectif Ishtar propose un art résolument vivant qui s'interroge sur son époque, fait fi des académismes, et prend le risque de la recherche. Sur Radio B, avec Résonance, aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans du collectif Ishtar, un collectif qui propose un art résolument vivant, qui s'interroge sur son époque, fait fi des académismes et prend le risque de la recherche. Alors, pour être au cœur de cet événement, Résonance a choisi d'installer ses micros le 24 novembre dernier à la MJC de Bourg-en-Bresse lors de Les Informels, une programmation riche, inventive, proposée par le collectif Ishtar pour fêter ses 25 ans de parcours artistique. Pour son anniversaire, le collectif Ishtar présente des expositions de photographies, des vidéos et sérigraphies, des installations sonores, des performances, danses, concerts, avec les artistes Benoît Canquin, Cyril Darmedru, Nicolas Demerchalier, Tony Di Napoli, Eddie Kowalski, Xavier Saïki, Alain Salet, Olivier Tout-le-Monde et Yvette Louis. Pour évoquer la genèse, la démarche artistique et de recherche menée depuis 25 ans par ce collectif, plusieurs invités à nos côtés, membres de ce collectif, ou observateurs ou accompagnateurs aussi de ce mouvement. Alors, plusieurs musiciens, tout d'abord Cyril Darmedru, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue donc autour de ce micro et dans cette émission.
Et merci de votre présence et de votre intérêt pour le collectif, pour toutes les aventures locales, voilà.
C'est le rôle de Résonance et de cette émission en tout cas, et d'être aux côtés de ce qui se passe aussi sur le terrain. Autre invité à vos côtés, Tony Di Napoli, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue aussi.
Merci.
Ensuite, Eddie Kowalski.
Bonjour.
Bonjour, membre aussi depuis de nombreuses années du collectif, depuis le début. Et puis aussi à côté, Gérard Hautelin. Bonjour. Et bienvenue aussi dans cette émission. Alors, peut-être, on peut peut-être commencer ensemble, Gérard Hautelin, parce que du coup, ce qui me semble intéressant avec nos invités là, ici, présents autour de nous, c'est peut-être partir du contexte aussi, donc déjà d'une époque, 1900. 1993, c'est vrai que chaque territoire a son ses phases aussi de développement, son histoire aussi artistique, et puis de développement de différents courants ou de différents groupes qui ont contribué aussi à faire bouger le cadre artistique aussi local. Vous étiez, vous, à l'époque aussi engagé dans de multiples actions artistiques, et à un moment donné, il y a un collectif de jeunes, parce que effectivement c'était vraiment des tout jeunes musiciens à l'époque, qui commencent à se rassembler, qui commencent à aller à constituer un collectif, à s'essayer, à s'aventurer aussi dans cette musique. Mais du coup, ça correspondait aussi parce qu'il y avait plein de choses qui commençaient aussi à se passer sur ce territoire-là à cette époque.
Oui, c'est-à-dire que dans le domaine musical, qui est celui que je connais le moins mal, parce que je ne parlerai pas dans le domaine de la chorégraphie ou d'autres, même si j'ai suivi un peu des
Tout
choses et auxquelles j'ai pu assister. Mais c'est vrai que dans le domaine musical, alors il y a eu quand même déjà, les choses ne naissent pas comme ça par hasard. C'est pas une génération spontanée. Et ceux qui font naître quelque chose, c'est qu'avant ils ont déjà opéré plusieurs autres, recherches, tentatives, etc. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu tout un. Il y avait quand même à cette époque, on va dire depuis les années, depuis une bonne dizaine d'années, même un peu plus, il y avait quand même déjà pas mal d'aventuriers dans le domaine de la musique qui sortaient un peu des sentiers battus, qui voulaient faire autre chose que les parcours académiques qui étaient de toute façon encore à l'époque. Alors, c'est vrai que les institutions ont quand même bougé. L'école de musique n'était plus en 95 ce qu'elle était en 70,
c'est
75 quand j'ai connu. on remontait dans la préhistoire.
Il y avait quand même eu des évolutions.
Ouais. Mais ça restait quand même des choses où il y avait des programmes, des parcours un peu obligés, des manières de faire qui ne laissaient pas grande place à des choses. Alors, si on parle du son, à des choses inouïes, c'est-à-dire des choses qu'on n'entendait pas, et dans des lieux où on n'avait pas l'habitude d'entendre des concerts ou des manifestations musicales. Je pense que même s'il y a eu des expériences, alors tout à l'heure, on évoquait le Sademe Jazz avec, dont on a fait partie, du Sademe Jazz, vous deux, vous en avez
tous
fait partie.
Tous les deux, et Eddie Kowalski et Cyril Darmedru, vous en avez fait partie, bien sûr.
Donc, qui a été la première école de musique hors les murs, et où l'apprentissage ne se faisait pas sous le système du maître qui enseigne à l'élève avec la demi-heure de présence obligatoire.
C'est ça.
Mais c'était à travers une pratique collective, et que l'enseignement de la musique se faisait à travers le jeu musical lui-même, et c'était le principe important.
Alors, c'est vrai que parler du Sademe Jazz aujourd'hui, ça a complètement du sens. D'ailleurs, il y a des gens du Sademe Jazz qui sont venus nous écouter.
J'imagine, oui.
Je pense qu'il y a eu l'aspect que Gérard décrit très bien d'une organisation artistique, une pratique artistique en milieu rural, puisque c'était des associations.
Oui, parce qu'on était dans ce cadre-là.
De petits villages qui ont.
Saint-Denis-les-Bourgs, Jasseron,
Meillonnat. Qui ont su s'organiser pour nous proposer d'abord un éveil musical et ensuite une pratique en orchestre de jazz. Et puis, par rapport aussi aux esthétiques, on va en reparler plus tard, mais aux esthétiques du collectif, il y a eu des rencontres importantes, Beniata Tchari, par rapport à toute l'énergie de la voix, l'expression de la voix, et par là, la pratique improvisée sur nos instruments, et puis aussi Alain Joule et Michel Donneda, qui, alors qu'on était tout juste adolescent, a essayé de commencer à maîtriser un petit peu nos instruments, nous ont dit « mais prenez-les à l'envers, il va se passer plus de choses ». Et il y aura moins de monde et on va beaucoup s'amuser et on s'est beaucoup amusé.
Prendre les choses à l'envers, ça c'est
vraiment
effectivement une chose très importante.
Voilà, voilà déjà une phrase clé aussi déjà de ce qui s'est passé.
Parce que Cyril me l'a dit au téléphone, mais en plus on en avait parlé déjà avec Tony et puis avec Eddie. Ils se définissent un peu comme des musiciens inclassables. Et comme je disais tout à l'heure, quand on était un peu en groupe et à l'ouverture, le fait que les gens ne puissent pas les classer dans des catégories, dans des séries, dans des tiroirs, dans des chapitres, dans des pages, etc. Je trouve ça essentiel et vraiment très important. C'est-à-dire que les gens sont comme ils sont.
C'est ça.
Ils sont avec leur passé, leur présence, ce qu'ils ont envie de faire et de devenir, ce qu'ils poursuivent. Et on ne se préoccupe pas de savoir si ça correspond déjà à une notion répertoriée et connue. Et je pense que ça, alors Ishtar, c'est votre histoire. Et ça, à mon avis, ça, c'est essentiel, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on ne sait pas bien où vous êtes. On n'a jamais bien su. Mais si, en fait, on savait très bien où vous étiez.
C'est ça.
Mais vous n'étiez pas, en tout cas, dans des cases préfabriquées déjà.
C'est ça.
C'est-à-dire aussi qu'on a, on a été quand même les élèves de précurseurs en la matière, dont certains sont réunis autour de la table. On a parlé du Sunday Made Jazz, on peut parler donc aussi de Jean-Pierre Goudard.
Bien sûr.
Vous avez su aussi inventer de la musique là où elle n'était pas, inventer une présence artistique et des pratiques impliquée, de qualité, prenante, dans des domaines où on ne nous attendait pas. Et donc, je pense que là, c'est pour ça aussi que c'est sympa de se retrouver maintenant, parce que je pense que vous nous avez beaucoup appris sans cours théorique sur tout ça. Voilà.
C'est dire, Gérard Rotelin, ce que vous disiez, donc là, c'est important, du coup, qu'à un moment donné, il y a quand même une concentration, en tout cas d'énergie, de préoccupation par rapport au domaine musical qui était ici. On évoquait les lieux académiques, mais en tout cas, il y avait un certain nombre d'initiatives de courants qui étaient là, et en tout cas qui réfléchissaient, qui essayaient d'initier d'autres manières d'être en musique. Et je crois que c'est extrêmement important aussi ce qu'on disait il y a quelques instants, ce que vous disiez il y a quelques instants, cette affaire de, et on verra que l'improvisation, peut-être que c'est un de ces enjeux justement de ce côté inclassable des choses, c'est que du coup c'est une revisitation des places, une redistribution des rôles, des compétences, des statuts, et que du coup ça revient bousculer de manière très forte le domaine de l'expertise musicale du spécialiste, mais que du coup ça ouvre l'accès à tous quelque part aussi à une expression de chaque individu.
Oui, et puis Cyril, en évoquant Michel Doneda, a dit une chose très importante, c'est de prendre son instrument à l'envers. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est tout, en fait. C'est-à-dire que, de la même manière que Tony, quand tout à l'heure tu faisais avec les... Je ne sais pas comment tu l'appelles, le lithophone, métallophone, etc. Enfin, en tout cas, des structures vibrantes, on va dire comme ça, pour faire bref. Alors, c'est déjà répertorié dans le domaine académique. Mais ce que tu as fait, ça n'est pas répertorié. C'est une approche qui se cherche, qui est autre, et puis qui donne après des résultats qu'on n'entend pas forcément. Voilà. Alors ça, c'est très important. Et de les emmener, ces choses-là, ces sonorités-là, de les emmener dans des lieux où on entend plutôt, des coques, des tronçonneuses et ou des tracteurs, c'est très important parce que du coup, on enrichit le paysage sonore d'un lieu qui est déjà en lui-même très riche et qui n'est pas simplement c'est pas un bruit de boulevard comme là où on est avec des voitures qui passent ou des camions de manière incessante. C'est autre chose parce que il y a une qualité en plus dans cet environnement qui est la nature, qui est pas entre des murs de béton vitrés, etc. Et c'est très important de pouvoir faire entendre des choses comme ça dans ce lieu. C'est votre histoire, c'est magnifique ça.
Tony Zignapoli.
C'est vrai, enfin, vraiment, je pense que aussi la musique improvisée, elle se vit d'abord sans instrument, avec ce qui se passe autour, en fait. Donc, on apprend à écouter que ce soit le bruit d'une porte qui s'ouvre et apprécier aussi ce bruit, enfin, ce son, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est un peu la base.
Soupir et une variation, comme disait.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est vrai que commencer à l'envers, c'est important parce qu'on peut directement exprimer des choses, en fait. Voilà. Tandis que c'est vrai que dans l'enseignement traditionnel de la musique, il faut déjà arriver à un certain niveau pour se dire musicien. Voilà. Et je pense que ça bloque beaucoup de monde, en fait. Ça ferme les portes à une autre expression possible. Voilà.
Oui, pour
Eddie Kowalski.
Là-dessus. Quand. quand on, Michel Deneda nous a dit « prenez vos instruments à l'envers », alors qu'on était juste en train de les apprendre, à les découvrir
à l'endroit.
Du coup, ça nous a bousculé
très sérieusement.
Mais en fait, c'était très bien que ça arrive aussi tôt, parce que du coup, on n'a plus du tout le même rapport avec la musique, avec qu'est-ce que ça peut être de la musique. Et du coup, il y a des horizons qui s'ouvrent, vastes et variés. Et je crois que du coup, chacun après a mené son bout de chemin avec ses aventures et a continué à cultiver l'aspect traditionnel de la musique, de la pratique, de la théorie, des choses importantes qui sont à savoir, mais aussi de pouvoir être libéré et de pouvoir s'aventurer vers ces autres horizons.
Alors ça veut dire, Eddie Kowalski, que du coup, chacun d'entre vous était embarqué dans sa propre découverte, à l'endroit et à l'envers, mais que du coup, il y a un moment donné, ça veut dire que vous étiez déjà ensemble, ça veut dire que vous étiez dans des choses différentes, ou au contraire, certains se sont raccrochés parce que, entendant que vous vous aventuriez d'une certaine manière, se sont rapprochés et ont commencé de dire pourquoi pas faire quelque chose ensemble ou de s'aventurer ensemble dans une démarche de cet ordre. Comment ça s'est un petit peu passé à ce moment-là ?
Alors, au tout début du collectif Ishtar dans les années 93, donc il y avait certains artistes qui venaient du Sadamed Jazz.
Oui.
Il y a eu tout un groupe qui venait plutôt du milieu rock'n'roll, donc Nicolas Desmarchelier, Anne Pellier, Nicolas Pellier, Philippe Pellier, toute la famille Pellier en gros, qui eux venaient plutôt du milieu punk, on peut le dire.
Oui, oui, bien
mais
sûr,
qui étaient intéressés par les expériences sonores. Et aussi d'autres personnes qui étaient des amis proches, parce qu'au tout début, il y avait aussi quelques circassiens, quelques danseurs.
Quelques danseurs aussi, ouais.
Donc voilà, c'était un peu...
donc très vite, le côté pluridisciplinaire était présent.
C'était tout de suite pluridisciplinaire, ce qui nous a permis aussi d'imaginer des performances avec une géométrie un peu plus complexe que le simple concert. On était déjà, du coup, dans des actions protéiformes, et à chaque fois, on essayait de s'adapter aux divers lieux dans lesquels on pouvait avoir à faire des performances.
Je veux bien compléter ça.
Oui.
Par rapport à, justement, on a retrouvé, parce que les amis sont passés là depuis deux jours, on a retrouvé un dossier de presse, le premier dossier de presse du collectif Ishtar, puisque c'est vrai que la naissance du collectif, on avait entre 15 et 20 ans. Et très vite, la mairie nous soutient. Très vite, la DRAC s'intéresse à nous. Donc la DRAC, le ministère de la Culture, instance régionale. Et en fait, quand on voit le premier dossier de presse, il y avait encore des photos, des tournées du Sadamed Jazz. Tout a commencé dans une époque aussi, on était tous en pleine adolescence, dans une proximité de lycéens. Et je crois que vraiment, le fait qu'une partie de l'équipe ait fait autant de concerts, parce que Sadamed Jazz, c'est quand même plusieurs centaines de concerts dans toute la France, des rencontres avec des artistes, du concert mais aussi de la scène. Donc je pense que là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on avait un petit peu une sorte de confiance dans ce qu'on pouvait faire, qu'on a mis au service de projets collectifs comme l'ouverture de saison du théâtre. On en a parlé aussi tout à l'heure. C'était exceptionnel faire rentrer les gens par les coulisses, réinvestir complètement le théâtre avec des gens qui font de la varap en plein milieu, des personnes sur scène à part un compteur et tout le monde sur des espèces de mini-planètes suspendues au-dessus de la scène. Donc aussi une façon de ne pas aller sur le théâtre. C'était une façon de dire on ne va pas faire ce qu'on attend de nous quelque part. Je pense que l'expérience du Sadamed Jazz a permis ça quelque part, parce que du coup les compétences des amis de nos âges, là il y avait une folie de la jeunesse et ça c'est parti très vite quoi.
Mais elle est belle aussi, cette folie, parce que c'est ce qu'elle permet de... elle est nécessaire, mais en
même
temps.
Je pense que si on avait pris le temps comme on prend aujourd'hui, le temps de réfléchir comment on va faire les choses, on n'aurait pas fait tout ce qui s'est passé au début, parce qu'on décidait de le faire et tout de suite, c'était en route. Quoi.
Est-ce qu'on peut juste comme ça donner Cyril Darmedru, du coup, ça réunit combien de personnes, cette première équipe, si on peut dire, du collectif Ishtar?
On était un peu plus d'une vingtaine.
Oui, quand même, ce qui est conséquent. Hein.
Un peu plus que ça au Théâtre de Bourg. Pour le concert de préfiguration de la future SMAC où on militait avec d'autres associations, oui. On était là une vingtaine. Le théâtre, on a dépassé la trentaine. Voilà, mais avec des engagements, chacun à sa manière. Mais des décisions collectives sur le résultat final de la présentation. On a chacun proposé des scénettes, testé
des choses.
Ouais. Et il y a eu une réunion incroyable. Dans les souvenirs qu'on nous demandait, et qui sont, moi, un des plus grands souvenirs, c'est une réunion en face de la tannerie, à la vinaigrerie, qui a duré.
Une des salles qui existait à l'époque, justement, ici à Bourg.
Une partie de la nuit, c'est-à-dire qu'on avait plus de 100 scénettes de quelques minutes, et il fallait qu'on fasse quelque chose d'une heure et demie, et donc chacun discutait, défendait son truc, et c'était juste incroyable.
Ça, j'imagine complètement. Ça chemine, bien sûr.
Ça chemine.
Hein, on peut imaginer. Donc on va, bien sûr, on peut pas retracer chaque jour, mais ça, je pense que c'était extrêmement important de pouvoir repréciser avec vous cet état d'esprit qui fait que ça va donner toute l'énergie et finalement toute cette trajectoire aussi qui va se projeter justement dans
plusieurs années. À partir de là, on se construit petit à petit.
Bien sûr.
Des formations naissent. On est un peu comme un collectif. Portefeuille avec divers groupes, formations qui naissent au fur et à mesure des ans qui passent. Donc, on est un peu un collectif classique, on va dire, dans un premier temps, on touche un petit peu à diverses pratiques. Au tout début, il y a même de la chanson avec David Aiglem et Thomas Janssen, qui est parti maintenant faire sa carrière de chanteur au Québec. On a des danseurs, Émilie Borgo qui était là, et qui depuis
a monté sa compagnie Passeros.
C'est vrai qu'aussi le collectif, même si on avait ce caractère pluridisciplinaire, on était quand même bien estampillé comme un collectif de musiciens et de musique est classé
dans ce registre-là.
Donc après, à partir du moment où on est plus dans ce registre-là, on n'a pas forcément les mêmes accès aux dispositifs d'aide, d'accompagnement.
Bien sûr.
Donc, je pense que c'est ce qui a fait que Émilie a monté sa structure après. Mais on a essaimé, du coup, comme ça.
C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que, à la fois dans la dynamique de départ, dans comment aussi elle s'est prorogée, comment elle a nourri aussi peut-être chacun des membres. Du coup, le collectif aussi a permis à d'autres de s'aventurer dans leur propre chemin. C'est-à-dire, du coup, à la fois de consolider ce qu'ils étaient, d'expérimenter des choses, mais aussi d'ouvrir d'autres voies et de s'affirmer dans ses voies. Si on prend Émilie Borgo, comme d'autres, Olivier, tout le monde, je pense aussi à lui.
De faire ses choix, de s'affirmer.
Donc, s'émanciper du groupe pour aller expérimenter autre chose.
C'est ça. Et en même temps, on continue à avoir des rapports d'échange ensemble.
Bien
on
sûr.
Mutualise des bureaux. Bon, ça, c'est plus administratif, plus technique, mais on est aussi dans l'entraide dès que quelqu'un organise un événement. Et puis, on est quand même dans des pratiques qui ne sont pas éloignées au final.
Bien sûr. Donc du coup, il y a quand même un état d'esprit de départ, quels que soient les parcours des uns des autres. Et puis, bien sûr, il y a d'autres artistes qui vous ont rejoint au fur et à mesure. Mais il y a quand même aussi, cette solidarité qui s'enracine jusqu'à encore aujourd'hui.
En fait, dès le départ aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que il y avait des projets collectifs qui ont permis... il y avait cette envie d'inviter des artistes et d'échanger avec eux. Donc déjà de pouvoir les faire venir sur le bassin de Bourg, dans le département, et également donc pour qu'ils produisent leurs créations, mais également aussi de faire ce qu'on a appelé à une époque des concerts-rencontres ou sur certaines créations, certaines performances, des échanges comme ça sur des projets sur un temps donné. Dès le début, ça existe. Donc c'est ce qui fait aussi le lien du collectif dans l'ensemble par rapport à tous ces petits groupes qui ont émergé à une époque aussi, qui faisaient un peu un trio, un quintet, une grande formation, un big band, la grande des formations.
Oui, c'est ça, il va y avoir des noms qui vont identifier aussi ces différentes possibilités.
Il y a ces formations qui font partie du collectif, mais qui ne concernent pas tout le monde. Mais il y a aussi tous ces moments de concert-rencontre, d'échange d'ouverture vers d'autres artistes nationaux ou même étrangers.
Cyril Darmodru, vous vouliez rebondir.
Je voulais revenir sur le début du collectif, parce que ce qui vient de se passer, là, on a décidé de lancer l'anniversaire officiel, revoir du monde, dire qu'on est là, qu'on continue d'œuvrer, de chercher, de faire. Et en fait, on parlait d'Émilie là tout à l'heure. Émilie a fait un texte pour l'inauguration du vernissage hier. Pour le vernissage. Et en fait, on s'est aperçu quand elle a préparé le texte en échangeant que pour elle, c'était un élément fondateur de sa carrière artistique. Mmh. Et je crois que c'est le cas pour moi. Et je crois qu'en fait, là, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont démarré dans ce collectif. La façon de faire, la façon de garder une sorte de direction, je dirais presque une éthique intellectuelle sur l'envie de faire ça pour ça, ça a été un truc fondateur pour tous ces artistes.
Hurlement de planète. Hurlement de planète. Et le progrès. de passer de l'île.
Sur Radio B avec Résonance. Aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans du collectif Ishtar, un collectif qui propose un art résolument vivant qui s'interroge sur son époque, fait fi des académismes et prend le risque de la recherche. Alors nous continuons nos échanges et Cyril Darmedru est resté avec nous ainsi que Tony Di Napoli. Et je me disais qu'au stade de notre échange et de notre discussion, nous avons parlé que effectivement tout à l'heure de prendre des choses aussi à l'envers et donc du coup d'expérimenter finalement et de s'aventurer et que l'improvisation est une manière avec l'expérimentation donc de travailler et peut-être d'essayer d'aller un petit peu plus sur le fait, chacun entend parler de l'improvisation mais il y a multiples manières d'improviser. Si on se réfère au jazz, on peut improviser sur une trame harmonique, si on parle de la musique baroque aussi sur une basse continue. Voilà, il y a plein de manières pour chacun d'entre nous d'imaginer qu'est-ce que c'est qu'improviser.
La musique traditionnelle aussi.
Les musiques traditionnelles aussi également. Il y a plein d'endroits. Toute l'oralité va aussi nous amener également à des certaines formes aussi d'improvisation. Alors j'allais dire peut-être avec vous, si vous voulez bien, Cyril Darmedru, c'est quoi pour vous l'improvisation ?
En fait, plus j'y pense, plus parce que c'est forcément une thématique super importante dans la pratique. Plus j'y pense, plus je crois que ça fait partie de mes fondamentaux de la musique. Et alors là, du coup, on peut rediscuter un tout petit peu de ces débuts de musiciens en milieu rural, parce qu'en fait, on avait des enseignants et, enfin, des musiciens encadrants qui nous laissaient une totale liberté dans notre relation avec l'instrument. Ce qui fait que je peux dire ça aujourd'hui, maintenant, parce que...
Il y en a la conscience.
Parce que j'enseigne dans un conservatoire. J'ai découvert le conservatoire en tant qu'enseignant, sans être passé par la case conservatoire, quasiment. Et du coup, je me souviens que quand on était jeune, peut-être on révisait pas forcément le morceau urgent pour le prochain concert. On était parfois un peu mauvais, mais très vite, l'effet de groupe faisait qu'on avait envie de s'améliorer. Moi, je me souviens d'avoir pris l'instrument pour m'amuser.
C'est ça.
Et pour jouer, en fait, amuser, jouer,
s'inventer, s'aventurer, triturer.
Du coup, on est dans le sujet de l'improvisation, c'est quelque chose que je veux donner à des élèves quand j'enseigne le saxophone, c'est-à-dire qu'on démarre, on fait pendant un an ou deux, uniquement du jeu sonore avec l'instrument, ou voire avec des becs sur des instruments fabriqués pour simplifier le problème de... Voilà. Et je me souviens vraiment ça, c'est que on jouait avec nos instruments à la maison. Et je pense que les premières impros, elles se sont faites logiquement, c'est-à-dire dans un développement d'enfant. On a des petits jouets qui certains sont des jouets instruments. On joue et on improvise, on s'amuse avec. Et on a eu à un moment donné des jouets et instruments beaucoup plus complexes. Et on a continué à faire ce qu'on faisait avec des jouets plus simples, en fait. Voilà.
Oui, donc là, il y avait vraiment l'idée aussi de s'aventurer avec la matière sonore, de la manier, de sentir aussi qu'au travers de ce jeu, de ce qui va s'expérimenter, du coup, il y a un plaisir aussi, un désir de jouer qui petit à petit émergeait, qui donnait cette envie de poursuivre, d'aller plus loin, ou qui éveillait votre curiosité.
Ouais, alors curiosité, ça veut dire on rejoue quelque chose qui s'est passé, on s'interroge
peut-être
sur
pas
ce
dans
qui
la,
s'est passé.
Peut-être pas dans le phénomène de la répétitivité, mais en tout cas effectivement de la prise de conscience de qu'est-ce que je fais finalement.
Un moyen de s'approprier, mais on se crée aussi une mémoire, comme les chansons qu'on invente tout petit. Avec l'instrument, on peut s'amuser et reprendre des jeux qu'on a fait. Je crois qu'on se fabrique un début de vocabulaire personnel qui est super influencé déjà. Surtout quand on a eu des parcours d'éveil musical et de sensibilisation au son. Donc ça joue aussi effectivement, parce qu'on peut s'amuser plus avec un instrument si on a pris l'habitude de sons étranges, étonnants, surprenants.
C'est vrai que le cadre dans lequel on arrive, dans lequel on découvre peut-être la musique, que ce soit dans le cadre familial ou plus proche, ou comme on veut le dire, au travers d'un sadémé jazz ou d'initiative, tout ça va être des parts d'influence très justement, qui s'inscrivent dans votre mémoire, qui se fixent, et qui vont être aussi des éléments avec lesquels soit on va s'en émanciper, soit ils vont influencer ce qu'on va pouvoir faire, mais qui sont là, et c'est avec ce premier contexte finalement qu'on s'aventure dans toutes ces choses et qu'on prend conscience un peu de qu'est-ce que je peux faire là au milieu de ça, ou vers ce quoi ça m'emmène peut-être aussi.
Oui, et puis je dis c'est déjà sous influence, mais en même temps, quand on est dans un milieu rural, en pleine campagne, il y a aussi un côté terrain vierge. C'est-à-dire qu'on aura moins une pression tout à fait bienveillante de la famille, de l'entourage, qui a une culture musicale. Là, on était dans un autre contexte, et ça aussi, c'est intéressant, du coup.
Tony Di Napoli, pour vous, alors Cyril Darmedru vient de nous faire part un petit peu de pour lui, qu'est-ce que c'est cette source finalement de l'improvisation et de déjà à quoi ça correspond un petit peu dans sa démarche. Pour vous, peut-être comment c'est arrivé aussi pour vous, d'abord votre rapport à la musique, et puis peut-être de ce rapport à la musique, le fait qu'il vous ait entraîné petit à petit aussi à vous aventurer sur ces chemins aussi, de la même manière que Cyril Darmedru, que peut-être l'improvisation.
En fait, donc moi, comme départ, en fait, moi, j'ai une formation de plasticien. Donc, dans les personnes que je rencontrais, donc il y a cet esprit d'aller chercher des choses dans les arts plastiques. Et là, il y avait donc j'écoutais la musique d'une personne en fait qui était justement élève de Frédéric Krzyzewski, qui était professeur de composition au conservatoire à Liège, et qui en fait à l'époque, donc début des années 90, ouvrait son cours aux élèves libres. Voilà. Et donc cette personne suivait ses cours et quand j'ai entendu sa musique, j'ai envie de travailler avec lui. J'avais déjà entendu en fait cette musique en fait. Et donc il travaillait beaucoup la musique concrète et des enregistrements. Donc et c'est vrai que ça a un peu démarré avec Slavek, cette pratique de l'improvisation et cette ouverture aussi. Plutôt à l'écoute des sons autour de nous, en fait. Voilà. Je pense que l'improvisation, c'est plutôt, ben, pour moi, en fait, c'est une manière d'être aussi au monde qui nous entoure. Voilà. Et c'est de trouver aussi intéressant d'écouter, comme j'ai dit tout à l'heure, une porte qui s'ouvre, ou un volet. Et cet ami Slavek, justement, prenait ces sons. Donc, quelque part, il a ouvert ce champ comme ça. De l'écoute. Et donc, en sculpture, là, j'ai commencé à fabriquer des pierres. Enfin, je taille la pierre, donc, et puis c'est comme
tout
ça.
Tout naturellement, façonnant votre écoute, vous étiez une pierre aussi.
Voilà, déjà. Et déjà, le fait de tailler la pierre.
Il y avait du son.
Le son est important. Enfin, déjà, elle nous renseigne si la pierre est de qualité ou pas de qualité. Donc, il y a ce geste aussi. Et donc, c'est un peu une continuité de ce geste.
C'est ça.
Voilà. Et donc, tout geste que l'on fait, c'est sonore, en fait. On ne peut pas faire autrement. Dans l'espace où on vit, on n'est pas dans le vide. Il y a un son, donc c'est aussi ce rapport sensuel au son. Et après, ben, c'est avec la pratique, voilà, les rencontres et voilà, le travail évolue.
Alors peut-être, comme vous évoquiez Frédéric Krzyzewski, qui est un compositeur, un improvisateur, pianiste aussi également américain, qui est né en 1938, et comme vous le disiez justement, qui a enseigné au Conservatoire Royal de Musique de Liège en Belgique, il disait ceci, et peut-être l'un et l'autre, Cyril Darmedru et Tony Di Napoli, vous pourriez réagir aussi, c'est un peu aussi en écho déjà un peu ce que vous venez peut-être de dire, mais quand il évoquait l'improvisation, il disait ceci: l'objet d'une telle forme artistique, l'improvisation, doit être la création à partir de rien. Ces décisions ne peuvent pas être gouvernées par des structures et des formules conservées de moments d'inspiration passée qu'on se contenterait de réarranger ou de réinterpréter. Elles doivent naître en épousant l'instant créatif au sein duquel l'organisme approche la réalité de manière si immédiate qu'il est récompensé par la perception du futur le plus élevé possible, qui est son chemin naturel vers la joie. Une telle forme artistique doit être improvisée, libre de se mouvoir dans le présent sans s'encombrer du poids mort du passé. Fin de citation. Cyril Darmedru.
Oui, alors du coup, effectivement, on sent un lien entre ce que vient de dire Tony et ce texte. On se questionne en fait sur le regard et sur l'écoute. J'intègre les deux. Oui. On redevient des éléments de sensation. Mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, quand on parle d'improvisation comme ça, moi, ça m'évoque tout de suite une notion de poésie, en fait. Mmh. Il parle de l'instant, donc on peut imaginer un instant absolu. En même temps, on sait bien qu'on s'enrichit au quotidien de tout ce qu'on fait. Donc, c'est un instant qui est aussi chargé d'idiomes qu'on se fabrique à nombreux ou à petits groupes. Ishtar fabrique ses façons de jouer ensemble.
Bien sûr.
Tous les collectifs, tous les musiciens. Voilà, et je crois qu'il y a cette poésie-là de chercher aussi dans l'instant une surprise, une sorte d'éveil, un éveil au sens, enfin dans le sens, dans l'essence.
Tony Di Napoli, pour vous ?
Oui, c'est très beau en fait ce qu'il dit, ça me fait aussi penser au silence là, de John Cage. Justement.
Aussi, autre personnage important qui peut nous aider à réfléchir autour de cette question.
Justement, et cette pièce qui est pour moi extraordinaire, qui m'a aussi... complètement bouleversé en fait quand je l'ai entendu à la télévision. Mmh. Voilà, et donc j'étais assis devant la télé un soir, et puis j'ai ce pianiste là qui ouvre, et puis
reste devant son piano.
Voilà, c'est ça, et donc c'était
4 minutes 33, voilà, si je me souviens.
C'était émouvant en fait. Voilà,
alors peut-être qu'on peut dire à nos auditeurs aussi, parce que vous parlez de l'image et expliquer cette pièce de John Cage qui, effectivement, quand les premiers moments aussi ont bousculé aussi tous ceux et toutes celles qui découvraient cette première manière et qui avaient rapport au silence, puisqu'il s'agissait donc d'un pianiste qui arrive sur la scène, qui se place devant le piano, ouvre bien sûr et face au clavier. Et on s'attend bien sûr à ce que lui se mette à jouer quelque chose, mais en réalité, ce qu'il va jouer, c'est du silence, pendant 4 minutes 33.
Oui, exactement. Voilà. Et en même temps, le silence n'existe pas. Donc
c'est ça. Alors, c'est-à-dire que
l'auditeur prend conscience de tout ce qui l'environne, en fait, des sons qui l'environnent, donc il porte attention.
C'est ça.
Et l'espace s'ouvre, en fait. Voilà.
C'est-à-dire, du coup, le fait qu'on n'entend pas le pianiste jouer va se manifester plein de choses. Une écoute va être autre, comme vous le dites, effectivement. Et là, va commencer à rentrer en jeu tout un paramètre, un grand nombre de paramètres sonores qui sont aussi bien de la réaction du voisin qui commence à s'étonner de pourquoi il ne va pas jouer sur son piano, d'entendre des sons extérieurs qui viennent se mélanger. Enfin, il va provoquer une situation tout autre et d'écoute.
Oui, donc c'est bien, c'est une pièce, mais c'est aussi une pièce dans la lignée des situationnistes et de la performance, puisque
tout à fait.
L'exploit de cette pièce a été évidemment la première. C'est toujours intéressant d'écouter effectivement les phénomènes sonores qui en découlent. Mmh. Beaucoup de gens, si on va voir cette pièce aujourd'hui, sachant à l'avance il y a quelque chose qui s'est joué. Et dans ce quelque chose qui s'est joué, il y a une réflexion sur le sonore, mais il y a aussi quelque chose concrètement de politique sur la part de l'artiste dans la société. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'il est prêt à donner? Mmh. Et les moyens surprenants, justement, pour faire réagir, provoquer une réaction. Ouais.
Vous êtes d'accord avec cela, Tony Di Napoli ?
Oui, ben c'est absolument.
Donc là, on touche aussi un peu, alors vous le disiez tout à l'heure, peut-être on peut pousser aussi un peu la question sous cette forme-là, pour l'un et pour l'autre. Vous disiez, bon, à un moment donné, il y a la poétique, et ça c'est très important, il y a une poétique qui va se dégager de la manière de jouer ensemble, du collectif en lui-même. Mais est-ce qu'aussi à l'intérieur de ça, je me fais volontiers provocateur, il n'y a pas à un certain moment donné des routines, des manières de faire? Est-ce que du coup, dans ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir réagir à l'instant, de pouvoir réagir aussi dans ce côté très vivant et mouvant finalement de ce que peut être les choses, est-ce qu'il n'y a pas des processus automatiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi des processus routiniers qui des fois à certains moments donnés peuvent s'installer, alors qui peuvent être aussi des pièges, ou comment, est-ce que c'est des choses qui se sont passées aussi dans le vécu aussi du collectif, et puis du coup ça a permis de rebondir, en tout cas d'avoir conscience que ces choses-là peuvent exister, et puis du coup chercher d'autres manières de travailler à partir de là, comment vous voyez cette question-là?
Oui, bon, il y a les musiciens, enfin, par rapport à la thématique de musique improvisée, puisqu'on on parle plus juste du phénomène d'improvisation, mais de musique qui sont pas préparées, en fait. Et en tout cas, sur lesquels on n'a pas fait un plan avec un grand A, grand B, après on fera ça. C'est-à-dire que les musiciens arrivent et vont échanger, mais pas forcément sur le contenu du concert. Il y a des musiciens qui vont aussi affirmer qu'ils inventent rien, puisqu'on peut affirmer les deux. Je pense que ce sujet-là, il accepte le paradoxe d'à la fois dire c'est complètement l'instant et à la fois aussi c'est aussi une forme d'humilité de se dire bon, de toute façon on arrive aussi avec un vécu, on peut passer son énergie à batailler contre ça, n'empêche il sera là, donc il faut aussi trouver quelque chose de vivable et de bien vivable pour qu'on soit dans une musique qui nous questionne dans un sens de développer des choses, pas de s'interroger sur soi-même comme un miroir. Donc voilà, je pense que sur le sujet des musiques improvisées, on a ce paradoxe là en fait de pouvoir aussi affirmer que de toute façon on n'invente rien. Je pense certains musiciens vont pencher plutôt d'un côté, d'autres l'autre. Moi je crois que les deux sont valables dans la recherche qui est faite. Et en fait, juste pour préciser, je me considère pas comme musicien improvisateur, même si je fais des concerts de musique où j'ai rien préparé. J'ai pendant longtemps, on a travaillé sur des groupes avec des choses écrites, parfois même c'était assez rare, mais des choses où on pouvait presque danser dessus. Voilà, c'est peut-être ces catégories-là permettent d'avoir une vision un peu globale des choix qu'on fait ou qu'on fait pas, d'ailleurs, des goûts qu'on a dans les musiques. C'est vrai qu'on est plutôt sur de l'art sonore. Quand on travaille comme on travaille les propositions qu'on fait ces jours, on est plutôt dans une écoute globale du son, en fait. Voilà. Je considère comme un point d'ancrage pour créer dans ce que je fais.
Tony Di Napoli, vous aussi, vous êtes là pour...
C'est vrai que l'improvisation, on développe aussi une sorte de vocabulaire, en fait. Donc,
oui, c'est ça.
Des matières comme ça.
Il y a des vocabulaires qui se mettent en place.
Qui se mettent en place et à un moment, c'est vrai qu'on a tendance à les réutiliser et peut-être à ce moment-là, il faut peut-être passer à autre chose. Voilà. Ou peut-être aller voir ailleurs un peu sous un autre angle comment ce rapport au son et ce rapport à l'espace. Voilà, mais enfin, à chaque fois, avant un concert, c'est vrai qu'on ne sait bien pas trop se poser de questions aussi. Donc, c'est peut-être arrivé à un état aussi où on ne réfléchit pas. C'est ça. Quand je joue, que je commence à réfléchir, je me dis là, ça ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va plus.
Quelque chose qui ne va pas, voilà, c'est ça.
C'est ça.
C'est quand c'est vrai que le corps devient le son, en fait, quelque part. Et ce n'est pas la tête qui fonctionne, que c'est juste des mouvements. Après, bon, ça a certainement ses limites aussi. Mais bon, c'est à chaque fois, c'est des catégories, quoi. Et peut-être l'improvisation, c'est peut-être quelque chose. C'est une catégorie aussi, peut-être, mais peut-être à ouvrir aussi avec d'autres noms, quoi, enfin, d'autres mots. Voilà.
Thank you.
Nous arrivons au terme de cette première émission consacrée au 25e anniversaire de la création du collectif Ishtar, enregistré le 24 novembre dernier, donc à la MJC de Bourg-en-Bresse. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir l'aventure de ce magnifique et pertinent collectif. Toute l'équipe, bien sûr, de Résonance se remet maintenant au travail pour imaginer le contenu de notre prochain rendez-vous. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Nicolas Galliot, la régie générale, de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne ou en podcast, surtout sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir accueillis chez vous, et très belle journée sur Radio B.